Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Poursuivons ensemble, chaque jour, cette anthologie des lettres des pères du désert. Nous avons depuis quelques mois longuement partagé ainsi avec vous les pensées et les expériences de quelques-uns de ces véritables athlètes du Christ. Antoine du désert, Jean Macaire, Climaque, Silouane, Séraphime de Sarov et quelques autres. Aujourd'hui, pour plusieurs jours, nous entrons dans l'œuvre de Jean Cassien, qui naquit probablement en City en 365 et concentra plus particulièrement son enseignement aux moines sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous verrons comment Satan entre dans l'âme. Les démons ne peuvent s'emparer de l'esprit ni du corps, de personne. Ils n'ont point la facilité de se ruer à fond dans une âme, à moins de l'avoir destituée d'abord de toutes les saintes pensées et dépouillée de la contemplation spirituelle. Il faut savoir toutefois que les esprits immondes obéissent à l'homme en deux manières. Ou c'est la sainteté qui les subjugue, par la grâce et la vertu divine, où ils se laissent gagner par les sacrifices des impies et de certaines incantations, et font preuve à leur endroit de la complaisance que l'on a pour les intimes. Et c'est ce qui faisait illusion aux pharisiens, lorsqu'ils croyaient que notre Seigneur et Sauveur, lui aussi, commandait aux démons par de tels artifices, et qu'ils s'écriaient « C'est par Belzébuth, prince des démons, qu'il chasse les démons ». Telle était en effet la coutume, à eux bien connue, de leurs mages et leurs sorciers, d'invoquer le nom de Belzébub et de lui offrir les sacrifices qu'ils savaient lui être agréables, afin d'entrer dans son intimité et d'avoir puissance sur les démons à lui soumis. Face à cela, il serait chimérique de prétendre d'emblée et sans préliminaire traiter convenablement de la prière et la pénétrer dans son plus haut degré qui suppose la pratique de toutes les vertus. Force nous est auparavant d'examiner par ordre les obstacles à faire disparaître et les préparatifs qui s'imposent pour obtenir le succès. Instruit par la parabole de l'Évangile, À nous de supputer d'abord et de rassembler diligemment tout ce qui intéresse la construction de cette haute tour spirituelle. Encore, les matériaux ainsi préparés ne serviraient-ils de rien, impuissants qu'ils seraient à soutenir le fait sublime de la perfection, sans un travail préparatoire qui consiste à nous défaire de tous nos vices et à débarrasser notre âme des débris et des ruines des passions, puis à jeter sur la terre vive, comme on dit, et solide de notre cœur, ou plutôt sur la pierre dont parle l'Évangile, de jeter les très fermes fondements de la simplicité et de l'humilité. Où cette tour qu'il s'agit d'élever avec nos vertus puisse s'asseoir inébranlablement et sûre de sa propre solidité, se dresser jusqu'au plus haut des cieux. Si elle s'appuie sur tel fondement, que vienne alors le déluge des passions, viennent les torrents furieux des persécutions, qui comme un bélier battront les murailles, que les puissances adverses, tel un ouragan sauvage, se ruent et se déchaînent, elle ne croulera pas. Que dis-je ? Le choc même ne réussira point à l'ébranler.
N'embrissite madre de Deus Maria.
Pour avoir la ferveur et la pureté qu'elle doit, la prière réclame une entière fidélité sur les points suivants. Et d'abord, suppression complète de toute sollicitude à l'endroit de la chair. Ensuite, nulle affaire, nul intérêt, dont je ne dis pas seulement le souci, mais le souvenir même, ne doivent être absolument bannis. Renoncer pareillement aux détractions, aux paroles vaines, aux bavardages et bouffonneries. Avant tout, supprimer à fond le trouble de la colère ou de la tristesse. Anéantir radicalement le foyer pernicieux de la concupiscence charnelle et de l'amour de l'argent. Après avoir entièrement retranché et détruit ces vices et leurs pareils, qui ne peuvent échapper même au regard humain, après avoir procédé à la purification que nous venons de dire et qui s'achève en la pureté et simplicité de l'innocence, jeter premièrement les fondements inébranlables d'une humilité profonde, capable de soutenir la tour qui doit porter son faîte jusque dans les cieux, puis y poser l'édifice spirituel des vertus, interdire enfin à son âme tout échapper en divagations et pensées volages, afin qu'elle commence ainsi de s'élever peu à peu, jusqu'à la contemplation de Dieu et l'intuition des réalités spirituelles. C'est qu'en effet, tout ce que nous avons dans l'esprit avant l'heure de l'oraison nous est fatalement représenté par la mémoire tandis que nous prions. Tel que nous voulons être dans la prière, tel il nous faut nous rendre auparavant. C'est de l'état qui précède que dépendent alors les dispositions de l'âme. Nous nous prosternons pour prier. Actes, paroles et sentiments renaissent identiques au regard de notre imagination. Ils suscitent, suivant ce qu'ils étaient avant la prière, ou la colère, ou la tristesse. Ou bien nous revenons sur nos convoitises et nos affaires. Nous éclatons d'un rire sot, j'ai honte de le dire, au souvenir plaisant de quelques paroles ou actions bouffonnes. Notre pensée retourne d'un vol capricieux à son vagabondage. Toutes idées étrangères dont nous ne voulons pas être importunés durant la prière doivent donc être bannies avec un soin empressé du sanctuaire de notre cœur dans le temps qui la précède. Nous pourrons alors suivre le précepte de l'apôtre, prier sans relâche. Et aussi, en tout lieu, levez au ciel des mains pures, sans colère ni contestation. Mais nous en demeurerons à jamais incapables si notre âme ne se purifie de toute contagion de vice et ne s'adonne à la vertu comme à son bien propre pour se nourrir de la contemplation continuelle du Dieu Tout-Puissant. L'âme pourrait, avec assez d'apparence, se comparer à un fin duvet ou à une plume légère. Si nulle humidité ne les souille et pénètre, la mobilité de leur substance fait qu'au moindre souffle, ils s'élèvent comme naturellement vers les hauteurs du ciel. Qu'ils soient au contraire arrosés et imprégnés de quelques liquides, les voilà tout alourdis. Adieu les vols aériens. Où leur mobilité naturelle ne saurait désormais les ravir. Le poids du liquide absorbé les abîme jusqu'à la terre. Ainsi en va-t-il de notre âme. Si les vices et les soins du monde ne viennent l'appesantir, ou la passion coupable la souiller, soulevée en quelque sorte par le privilège inné de sa pureté, au plus léger souffle de la méditation spirituelle, elle s'élèvera vers les hauteurs, et désertant les choses d'ici-bas, passera au céleste et invisible. C'est donc bien proprement à nous que s'adresse l'avertissement du Seigneur dans l'Évangile. Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent dans la crapule et l'ivresse et les soins de la vie présente. Voulons-nous que nos prières pénètrent jusqu'aux cieux et au-delà des cieux? Veillons à affranchir notre âme de tout vice terrestre. Purifions-la de la lie des passions afin de la rendre à sa naturelle subtilité. Alors sa prière, libre du poids mort des vices, montera jusqu'à Dieu. des différentes formes de prière et du Notre Père. Je tiens pour impossible de distinguer toutes les formes de prière, à moins d'une pureté du cœur tout à fait singulière et de lumière extraordinaire de l'Esprit Saint. Leur nombre est aussi grand qu'il peut se rencontrer dans une âme, ou plutôt dans toutes les âmes, d'états et de dispositions différentes. Je sais combien mon insensibilité de cœur me rend incapable de les apercevoir toutes. J'essaierai cependant de les décrire tant bien que mal, dans la mesure